La première, podcast.
La cité mythique de Babylone est née en Mésopotamie il y a près de 5000 ans. Ses ruines se trouvent aujourd'hui à 90 km au sud de Bagdad, en Irak. Babylone, c'est un mystère doux et magique qui appelle l'imagination, bien entendu, où tout était trop beau pour avoir vraiment existé. Et pourtant, elle a vraiment existé, cette cité. Et pour nous parler des splendeurs de l'époque, Johan Ducet de la Radio Suisse reçoit aujourd'hui Jean-Jacques Glaser, historien, spécialiste du monde mésopotamien, directeur de recherche émérite au CNRS et auteur du livre « La tour de Babylone, que reste-t-il de la Mésopotamie ?» C'est aux éditions du Seuil.
Babylone a suscité l'admiration et la fascination comme aucune autre ville.
Ce qu'il faut dire quand même pour débuter, c'est que Babylone a bel et bien existé.
Et Babylone a très bien effectivement existé, et on ne peut pas en douter. Je vous renverrai simplement à un livre d'Alfred Döblin qui s'appelle « Voyage babylonien », de l'auteur allemand. Écrit ça, je crois, entre les deux guerres, qui met notamment en scène le dieu de Babylone, Marduk, qui revient au XXe siècle, au début du XXe siècle, sous le nom de Conrad, sur les lieux où il avait exercé sa puissance. Et il rencontre sur le site de Babylone un archéologue allemand qui ne le reconnaît pas. Il rencontre un monsieur Conrad, et cet archéologue commence à lui expliquer le site, à le faire visiter le site, et lui explique comment était la vie et comment étaient les temples et les dieux dans l'Antiquité. Et Marduk, alias Conrad, s'amuse beaucoup de ce discours. Donc il y a là un lien qui est fait entre la ville ancienne et les ruines actuelles de cette ville ancienne.
Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote traverse le désert pour aller visiter la cité mystérieuse. Enthousiaste, il tiendra ses propos élogieux à son sujet. Aucune cité au monde ne possède la splendeur de Babylone. Une cité aux multiples merveilles architecturales.
Pourquoi est-ce qu'elle est considérée comme mythique, mystérieuse ? Pourquoi tous ces mots entourent Babylone ?
Eh bien, c'est une longue histoire, à vrai dire. Dès l'Antiquité grecque et dès la chute de la monarchie babylonienne, c'est-à-dire la fin du VIe siècle, lorsque les Perses occupent Babylone, dès ce moment-là, les auteurs grecs commencent à louer une manière d'orientalisme, peut-être déjà chez eux, la sensualité exotique de certains personnages dont ils ont conservé la mémoire, et des cités aux dimensions inimaginables. Babylone, on y reviendra, étant une mégapole, quelque chose qui est inconnu, totalement inconnu en Grèce. Donc il y a ce faste d'orientalisme qui s'affiche dès l'époque grecque. Mais plus tard, en Occident, la ville est assimilée à Bagdad des Abbassides, avec ses tapis volants, ses sultans ensorcelés, ses marchés, ses souks, son bazar. Et Babylone s'épanouit dans la Bagdad de Haroun al-Rachid et de son grand vizir qui n'était pas Iznogoud. Il y a des noms associés au mythe de Babylone, et que tout le monde connaît, Sémiramis, une femme qui aurait régné sur Babylone. En réalité, c'est une femme qui a existé et qui était une princesse assyrienne et non pas babylonienne, mais peu importe. Et puis le second nom est tout aussi connu, sinon davantage, c'est celui de Sardanapale, ce roi de Babylone, qui est en fait d'origine assyrienne et qui se fait incendier dans son propre palais lorsque son frère Assurbanipal prend d'assaut la ville de Babylone. Et il se fait incendier avec ses épouses, ses maîtresses, ses eunuques, sa suite et tous ses trésors. Donc le fameux incendie du palais de Sardanapale que Delacroix a mis en image.
D'ailleurs, Babylone, cette ville n'a jamais été complètement oubliée.
Elle n'a pas été oubliée à proprement parler. Il y a des voyageurs qui l'ont cherchée pendant tout le Moyen-Âge et toute l'époque moderne et qui, en gros, l'ont trouvée. Parce que ce qu'ils cherchaient, c'était une tour, puisque la Bible parle d'une tour. Et ils ont trouvé des tours ici et là, en Mésopotamie, dans le sud de l'Irak. Mais, on le sait aujourd'hui, la tour de Babylone a été complètement rasée. On a récupéré ses briques pour faire autre chose. et on prenait les tours alentours pour la tour de Babylone. Donc on la cherchait sans véritablement être capable de la trouver. Ceci dit, les voyageurs ne sont pas seuls, et dans les lettres, on parle de moins en moins de Babylone après, disons, grosso modo, la chute de l'Empire romain. Et quand même, là, la ville et le pays tombent dans l'oubli, ne seraient les allusions dans la Bible qui rappellent le mauvais souvenir de l'exil des Juifs, des Judéens plus exactement, dans la ville.
Expliquez-nous pourquoi Babylone est maudite dans la Bible.
Ben voilà, elle est maudite à cause de l'exil du peuple juif. Et nous savons aujourd'hui que c'était une réalité et que de nombreux Judéens avaient été installés d'autorité dans des villages qui portaient d'ailleurs des noms judéens pendant toute l'époque néo-babylonienne jusqu'à ce que Cyrus les autorise à rentrer dans leur pays, ce que beaucoup n'ont pas fait. Ensuite, elle est l'incarnation du mal parce qu'étant déjà dans un premier temps la ville de l'exode, de l'exil plus exactement, elle est aussi l'incarnation du mal. Elle est gouvernée par des dieux et une grande déesse, la déesse Ishtar, qui est considérée comme la grande prostituée, et d'où les servantes d'Ishtar dans la ville font de la ville une ville de dépravés et de réprouvés.
Pour atteindre Babylone, il faut faire une centaine de kilomètres au sud de la capitale de l'Irak, Bagdad. Nous arrivons sur un site en bordure de l'Euphrate, l'artère vitale de l'Irak. Il y a 2600 ans, l'Empire babylonien s'étendait sur ces terres désolées. Aujourd'hui, ces pans de murs qui s'effondrent sont les seuls vestiges des splendeurs de l'Empire. Difficile d'imaginer qu'autrefois, sur cette terre aride, se dressait une des villes les plus puissantes du monde.
Babylone se trouve effectivement pas très loin de Bagdad. Il y a là un cœur en Irak. Si vous avez une carte, vous voyez le Tigre et l'Euphrate. Et dans le Tigre, sur le côté oriental, vous avez un endroit, un fleuve qui se jette dans le Tigre, qui s'appelle la Diyala. Et alentour de ce confluent ont été construites successivement les plus grandes capitales que la Mésopotamie ait connues. Il y a là un lieu de conjonction que l'on a privilégié par rapport à beaucoup d'autres, pour des raisons qui nous échappent, parce qu'on connaît trop mal le contexte géologique et environnemental. Visiblement, il y a un carrefour routier, c'est-à-dire maritime, fluvial plutôt, extrêmement important.
Même un grec comme Hérodote, qui aurait visité Babylone 100 ans seulement après la mort de Nabucodonosor, est incapable de faire la différence entre fiction et vérité. Il écrit que la capitale des Babyloniens est à elle seule une véritable merveille. Hérodote est ébahi par les dimensions légendaires de la tour de Babel, mais ignore tout de la fonction qu'elle pouvait avoir. Il ne peut que l'imaginer. Quant à la cité elle-même, il lui attribue les proportions que lui inspire son imagination. Rue de 16 mètres de large, muraille de 25 mètres d'épaisseur et un périmètre de 96 km. Ainsi, dès l'Antiquité, la métropole de l'Euphrate devient une légende fantastique.
Alors oui, la ville est immense, la ville est gigantesque. Elle est considérée comme une mégapole inhabitable par les Grecs, qui n'ont pas idée que l'on puisse construire des villes aussi grandes. Eux, ils imaginent une ville sur un piton rocheux, bien défendu, avec peu d'habitants, facile à défendre. On a retrouvé une partie de l'enceinte, on a retrouvé des vestiges suffisamment importants pour avoir la surface que faisait la ville, qui fait plusieurs milliers d'hectares. Mais les Grecs ont imaginé qu'elle avait 65 km de pourtour, c'est-à-dire en fait 365 stades. Les stades étant l'unité de mesure grecque, et 365, ben c'est le nombre de jours dans une année. Donc c'est tout à fait mythique comme appréciation.
Qui est à l'origine de la grandeur de cette ville ?
Dire qu'il est à l'origine, c'est peut-être difficile parce que beaucoup de facteurs ont été conjugués. Mais l'époque et le règne sous lequel ces facteurs se sont déployés, c'est Hammurabi de Babylone, le fameux roi qui a laissé à la postérité un code de loi que tout le monde connaît, qu'on peut voir au Louvre, et qui a été copié, recopié pendant près de 1500 ans. Dans toutes les écoles de Mésopotamie, aussi bien en Assyrie qu'en Babylonie. Hammurabi a été un très très grand diplomate, un très grand politique, et il a réussi à unifier, disons, le sud de l'Irak sous son autorité, le temps de son règne. Après lui, tout s'effondre. Mais sous son règne, ont été réunis des savants, des lettrés, des scientifiques, qui ont commencé à coucher sur des tablettes d'argile tous les instruments du savoir que l'on pouvait réunir à l'époque. Et c'est vraiment sous son règne que commence la grandeur de Babylone, laquelle va durer, disons, quasiment jusqu'à l'ère chrétienne.
Aujourd'hui, des chercheurs estiment que la population de Babylone aurait atteint les 180 000 habitants. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, elle était sans conteste la plus grande cité du monde. Une cité aux multiples merveilles architecturales.
Il y a des gens qui font des statistiques. La ville faisant tant de kilomètres carrés, à raison de tant d'habitants par kilomètre carré dans une ville moderne, on dit que Babylone avait tant d'habitants. Honnêtement, nous n'en savons rien.
Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur Babylone.
Absolument. Nous savons que les villes antiques en Mésopotamie avaient trois espaces destinés à des usages différents. Un espace est destiné à l'habitation. Et sont des maisons souvent individuelles, ce n'était pas des HLM comme à Rome plus tard. Ensuite, vous avez des espaces de jardin, parce qu'on cultivait beaucoup à l'intérieur des murailles. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle une glaisière. À savoir, c'est totalement inexploité, si ce n'est que c'est là qu'on ramasse la terre et l'argile pour fabriquer les briques et pour construire les maisons. Donc la surface totale de Babylone n'était pas habitée. Et c'est pour ça que, personnellement, mais je ne suis pas seul de cet avis, je préfère ne pas donner d'ordre de grandeur du nombre d'habitants.
Au temps de sa splendeur, comment était Babylone? Est-ce qu'on arrive à la décrire, à donner quelques mots pour qu'on ait comme ça des images dans notre tête?
Bien, il est arrivé un grand malheur à Babylone, c'est que la nappe phréatique est montée. Et elle a complètement envahi les niveaux archéologiques, vieux babyloniens ou médio-babyloniens. Donc on a véritablement accès qu'à une partie des couches qui sont du temps de la ville de Nabucodonosor. Alors c'est sous Nabucodonosor que la ville atteint sa plus grande expansion, avec le rempart ancien et puis un second rempart beaucoup plus étendu qui entoure les quartiers nouveaux, si vous voulez, de la ville. Deuxièmement, c'est un pays où on construit en briques. C'est un pays qui n'a pas d'arbres, qui n'a pas d'ombre. On ne peut pas s'abriter du soleil, sinon en élevant des palmiers, en dressant des tables, en cultivant, en fait. Et c'est un pays qui n'a pas de pierre, sauf en Assyrie. Donc le sud de la Babylone, il n'y a rien que de l'argile, la terre, et du roseau dans l'extrême sud. Alors avec le roseau et avec l'argile, on fait des briques, parce que la brique n'est pas simplement de l'argile. Il faut mettre des ingrédients à l'intérieur, de telle sorte à ce que les briques que l'on fabrique, séchant au soleil, tiennent ensemble. Mais eh bien, la brique, elle fond au cours des millénaires. Quand on n'entretient pas les bâtiments, les murs s'effondrent. Et c'est ce qui est arrivé après l'abandon de la ville. La ville s'est effondrée sur elle-même et on a aujourd'hui de l'argile, de l'argile, de l'argile. Il y a peu de vestiges qui ont survécu. Donc il est difficile de parler des splendeurs de Babylone, si ce n'est à travers les textes qui, de temps en temps, rarement, nous décrivent une pièce ou un temple ou un bâtiment particulièrement important. Souvent, les murs étaient, dans ce cas-là, rehaussés par des couleurs, on peignait les briques, et rehaussés par des applications de plaques en métal, et sur lesquelles on avait des sculptures en bas-relief. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut dire. On connaît mieux, si vous voulez, les villes assyriennes, avec les parements, les bas-reliefs en pierre qui encadraient les murs, que les palais de Babylone elle-même.
En 1889, à l'aube du XXe siècle, Koldewey monte à bord d'un train pour aller découvrir la cité légendaire. À l'époque, les chercheurs et les historiens se passionnent pour l'histoire de la Mésopotamie antique. Après le train, Koldewey poursuit sa route avec une caravane. 3 semaines à dos de chameau pour traverser le désert irakien. Koldewey et son équipe creusent jusqu'à 20 mètres de profondeur et trouvent les ruines d'anciens édifices enfouis dans le désert depuis des siècles. La porte d'Ishtar est la pièce maîtresse de ces fouilles. Sa découverte est la preuve incontestable qu'ils sont bien sur le site de l'antique cité de Babylone.
La porte d'Ishtar est une splendeur.
Ici, les briques sont cuites et elles sont peintes. Et on a modelé dans les briques, par morceaux, puisque chaque brique porte un morceau, des créatures monstrueuses, des dragons. Les dragons de Marduk, de même que des lions et des taureaux. Cette porte, qui était la porte donnant sur la voie sacrée principale de la ville de Babylone, laquelle traversait quasiment la moitié de la ville, à partir de cette porte, pour rejoindre le temple du grand dieu de Babylone, Marduk, qui était beaucoup plus central. Donc on a une association entre le temple de Marduk, qui s'appelait les Sangil, la tour de Babel, qui faisait partie du temple de Marduk, et voilà des constructions prestigieuses, et cette voie sacrée, très large, qui gagnait la porte d'Ishtar et qui était elle-même subdivisée en plusieurs entrées successives avec des postes de garde. C'était un vrai travail de fortification.
Autre monument majeur de Babylone, c'est la ziggourat.
Voilà, alors la ziggourat, c'est un mot savant. C'est en fait le mot simplement pour dire tour en babylonien, mais des tours très spécifiques, des tours à étages. C'est-à-dire que chaque étage étant plus petit que l'étage inférieur. Alors on parle parfois de pyramide, mais la pyramide a des arêtes droites, alors que là, elles sont en escalier. Alors la tour de Babel avait cette particularité, chaque temple, dans chaque ville, avait une tour, et notamment le temple du dieu principal. Donc si vous voulez, les villes de Babylonie et de Mésopotamie, dans le nord aussi, en Assyrie, la même architecture existait, ressemblait de très loin aux villes médiévales, dominées par les tours des cathédrales. Quand on voyait de loin, on voyait la ville et sa tour. Ces tours étaient des mâts qui reliaient le ciel et la terre. C'est-à-dire que ces mâts servaient à maintenir l'équilibre du cosmos et la construction du cosmos, et l'empêcher de s'effondrer. L'effondrement de la tour signifiant la fin de la vie du cosmos.
Et l'on distingue encore nettement, vu d'en haut, un édifice qui devait devenir à lui seul une légende, la tour de Babel, dont il ne reste aujourd'hui qu'une mare. La photo aérienne montre que les fondations de l'édifice étaient manifestement carrées. Les reconstitutions des peintres du Moyen Âge sont donc fantaisistes. La tour de Babel n'était pas ronde, elle était carrée et s'élevait par degrés, sans doute, jusqu'à près de 100 mètres. La construction massive qui se dressait là a stimulé les imaginations à toutes les époques. Plus encore que la ville de Babylone, la tour de Babel devient le symbole d'un orgueil effréné qui court à sa perte.
Est-il vrai que cette tour, elle était au centre de toutes les attentions? Tous les gens qui passaient par Babylone étaient impressionnés par cette tour?
Voilà, alors la tour de Babylone était exceptionnelle par sa dimension. Du moins au premier millénaire. Nous ne savons rien sur la tour antérieure. Nous savons qu'elle a été détruite, reconstruite par un roi assyrien qui, à l'époque, dominait Babylone, et reconstruite dans un schéma très précis. Elle s'inscrivait dans un cube de 90 mètres de côté, d'arête. En fait, pour dire les choses rapidement, le cube de 90 mètres de côté, subdivisé en 7 étages, chaque étage en 9 espaces, c'est le bateau, dans la Bible on dirait l'arche, dans lequel le héros du déluge a survécu au déluge en Mésopotamie. Et ce bateau, comme l'arche dans la Bible, c'est une image du cosmos, c'est un microcosme. Donc on considérait le cosmos Babylone comme cubique, subdivisé en 7 étages et chaque étage en 9 espaces. La tour de Babel, quand les archéologues allemands ont commencé leurs fouilles, ils ont eu la chance, en une année, de voir la nappe phréatique baisser. Et cette année-là, ils ont vu apparaître sous leurs yeux l'ultime couche de briques de la tour. Et ils ont pu la mesurer. Elle fait à peu près 90 mètres de côté. Elle faisait 90 mètres de haut, et il semble-t-il que c'était un exploit, et ce serait toujours un exploit, parce que c'est le genre de pyramide ou de tour qui ne peut pas tenir debout. Mais la tour n'était pas l'arche, n'était pas le bateau, n'était pas le microcosme, parce qu'elle va, en se rétrécissant d'étage en étage, elle en est l'armature, elle est du cosmos, cet élément qui le tient ensemble. Si vous voulez, cette colonne vertébrale qui fait que le tout tient ensemble. Et les archéologues allemands ont découvert que le socle était fait de briques cuites, mais de briques cuites qui encadraient des espaces vides remplis de briques crues, séchées au soleil. Et ces espaces réservés en briques crues sont au nombre de 9. On a là retrouvé matériellement le premier étage de la tour qui épousait la surface du microcosme, donc du bateau qui a traversé le déluge, mais ensuite les étages étaient plus étroits, il n'empêche que le dernier étage était subdivisé en 9 petites chapelles. Donc le nombre 9 reste toujours là, 9 et 7. Voilà l'image que l'archéologie et les textes nous ont donné de la tour de Babel. Alors on a la chance que nous avons une description des mesures de la tour sur une tablette. Et la tablette nous indique effectivement les espaces réservés, la subdivision en 7, en 9. Et voilà que là, pour une fois, parce que c'est rare dans notre discipline, l'archéologie et les textes concordent pour donner la même description.
L'historien et chroniqueur grec Diodore de Sicile a laissé à la postérité une œuvre considérable. Dans l'un de ses livres, il décrit les jardins suspendus de Babylone.
À propos des jardins suspendus, il écrit qu'il y avait un accès principal, un grand escalier qui menait jusqu'au sommet des jardins. Il y avait également des terrasses construites l'une sur l'autre, une suite de terrasses superposées. Et en face de chaque terrasse, il y avait une galerie soutenue par des colonnes de pierre.
Impossible de parler de Babylone sans évoquer les jardins suspendus qui, eux, ont réellement existé.
Alors, les jardins suspendus, c'est une chose que les Grecs et les Romains, pardon, nous ont transmise. Il y a des descriptions multiples chez des auteurs généralement tardifs, mais je crois que ça commence avec quand même Flavius Joseph, donc c'est pas tellement tardif que cela. Et ils nous parlent de jardins suspendus. En réalité, on peut penser à des jardins en hauteur ou en élévation ou en palier. Et que suspendu parce qu'il fallait alimenter en eau, et on devait probablement avoir un système qui permet de faire monter ou descendre l'eau, des systèmes qui sont divers et qui sont connus dans l'Orient depuis toujours, donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Cela dit, à Babylone, on n'a jamais retrouvé la trace de ces jardins. Ils devaient être dans le palais, mais on est dans l'expectative la plus totale, les archéologues ne les ont jamais, n'ont jamais réussi à en retrouver même la trace.
Ces pompes devaient être actionnées par des bêtes de somme, des ânes sans doute. Le volume d'eau nécessaire à l'alimentation d'un tel jardin étant considérable. L'eau devait s'écouler par une cascade artificielle et se répartir dans un réseau complexe pour pouvoir arroser toutes les plantes du jardin. On raconte que les intérieurs des jardins étaient encore plus fastueux que les extérieurs. D'après les écrits, plus d'une centaine de chambres de tailles diverses étaient réparties autour d'une grande pièce centrale carrée, munie d'un bassin. À midi, ces dames de cour devaient venir s'y rafraîchir sous la douce lumière diffusée par le plafond. Les jardins suspendus seraient donc l'œuvre d'un puissant monarque désireux de plaire à son épouse bien-aimée.
Quels sont les autres monuments de Babylone ?
Il y a beaucoup de monuments à Babylone.
Beaucoup de palais, de temples ?
Quelques palais, mais dont il ne reste que des murs. Oui. C'est très désolé et très sec. Quelques temples, c'est la même chose. Un temple avec une bibliothèque tout de même. Il n'y avait pas de livres à l'époque, mais il y avait des collections de tablettes, puisqu'on écrivait sur des tablettes en argile. Et les bibliothèques étaient des salles obscures, dont les murs étaient percés de niches. Je dirais comme des niches de boulanger, si vous voulez, arrondies et sur une sol plate. Et c'est là-dedans que l'on rangeait les tablettes et qu'on les classait. Alors on a trouvé une de ces bibliothèques à Babylone, on a trouvé d'autres avec des tablettes dans d'autres villes. Et ce sont des découvertes extrêmement précieuses. Mais pour d'autres monuments à Babylone, il y a des monuments dont on ne parle jamais, dont les archéologues ne parlent jamais, parce que les archéologues en Mésopotamie s'intéressent au cunéiforme, enfin à l'époque où on écrivait en cunéiforme sur des tablettes d'argile, et non point à l'époque postérieure, c'est à l'époque grecque. Or, Babylone a été agrémentée par un quartier architecturalement organisé comme une ville grecque, avec un théâtre. Et le théâtre a fait couler beaucoup d'encre chez les archéologues, puisque quand les archéologues, c'est les Italiens, je crois, qui l'ont fouillé, ils ont découvert, par quelques inscriptions, il me semble, et par quelques données pertinentes, et surtout par la présence de briques cuites, et dont certaines avaient une couleur particulière, ils ont découvert que les Babyloniens eux-mêmes, à l'époque grecque, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'époque séleucide, en construisant ce quartier nouveau de Babylone dans la ville, ils ont détruit la tour de Babel, ils ont récupéré les briques et ils ont construit le théâtre grec. Voilà.
On retrouvera l'émission monumentale proposée par Joanne Ducey de la radio-télévision suisse vendredi prochain avec la Cité d'Encore. Et lundi, dès 13h30, on va réécouter les trois journées d'août 1914. Ce sont les documentaires réalisés par André d'Artevel qui, par ailleurs, est nommé au Magritte du cinéma. C'est une affaire à suivre. Ils seront remis le 7 février prochain. Je vous souhaite un beau week-end et avant cela, une belle après-midi sur la Première.